Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Oh, bien aller. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Voici la vie.
Est-ce que tu reconnais cette trame-là? Est-ce que ça a marqué ta jeunesse ou t'es trop jeune?
Je suis bien trop
jeune. J'étais une fois la vie.
Non, ça me dit absolument rien. Je vais aller sur Google.
T'as pas écouté. Il était une fois la vie.
Il était une fois la vie.
Mon Dieu. Et ça a marqué ma jeunesse. Puis, c'est quoi? On a même acheté les coffrets il y a quelques années pour les faire écouter
aux enfants. Oh, ils sont cute, les
petits bonhommes. Ben oui. Non, mais ça jouait.
Hey, c'était dans quelles années? C'est les bonhommes qui se promènent dans des canaux du corps.
Exactement. Pour vulgariser le fonctionnement du corps humain, le développement et tout ça. Et je pensais à cette émission-là, il était une fois la vie, en préparant notre entrevue, parce que je veux qu'on puisse vulgariser, je veux comprendre comment ça fonctionne, l'immunité, le vaccin, etc. Et c'est ce que l'exercice qu'on va faire avec la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Trudeau.
Connaissez-vous ça, il était une fois la vie, vous?
Pas vraiment.
Ah non, mais c'est une émission qui était fantastique, où on voyait vraiment, les globules rouges étaient personnifiés par des petits bonhommes, les globules blancs. Bref, c'est une façon vraiment de vulgariser le fonctionnement du corps humain qui a marqué l'esprit de bien des jeunes, en tout cas de ma génération. Et en lisant donc les résultats publiés dans la revue Cell, où on nous apprend que, bon, suite à certaines analyses, on s'est rendu compte que le système immunitaire du corps humain reconnaîtrait effectivement bel et bien le fameux coronavirus. Je me suis dit, je vais en parler avec Dr Tremblay, qu'elle nous explique en quoi c'est une bonne nouvelle et que c'est rassurant, mais essayez aussi de comprendre comment ça fonctionne.
Oui, bon, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle. Ils ont fait cette étude-là sur 20 personnes, donc c'est quand même un peu limité en termes de pour généraliser à l'ensemble des gens qui sont atteints par la COVID-19, mais au moins, ils ont été capables de démontrer que le système immunitaire de ces personnes-là était capable de reconnaître le virus et de développer des anticorps pour le combattre. Et de deux façons. Donc, ils ont démontré que non seulement les cellules, la sorte de globules blancs qui fabriquent les anticorps, donc des lymphocytes B, étaient actives, donc se mettaient à proliférer, puis étaient capables de construire finalement des bons anticorps capables de neutraliser le virus, mais aussi l'autre partie de notre système immunitaire, l'autre sorte de globules blancs, les lymphocytes T, qui aident les lymphocytes B à faire leur travail, ben ils ont montré que ces gens-là en avaient et que donc ça devait être une réponse qui est assez forte là, contre le virus. Donc, en ce sens-là, c'est des bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que cette réponse-là dure longtemps, mais au moins, pour le moment, les gens en avaient.
Des fois, on a de la misère à s'imaginer, à s'illustrer l'infiniment petit. Et quand je pense à la représentation qu'on a fait là, du fameux coronavirus, l'espèce de boule avec les pics, est-ce que ce combat-là entre le système immunitaire et le virus se fait vraiment... Je vais utiliser l'expression mano à mano, là, un à un, c'est-à-dire que chaque petite particule du virus est confrontée à une petite particule du système immunitaire et que ça finit par avoir un effet général. Est-ce que vraiment là, c'est un à un que ça se fait?
Ah oui, c'est un à un.
Ah,
oui. Ça se fait de différentes façons. Ça se fait, les anticorps, ce que c'est des protéines qui vont aller se planter sur le pic du virus. C'est la protéine de surface là, qu'on appelle le spike, les vous voyez l'image qu'on voit toujours là,
du virus.
Avec des petits bourgeonnements autour. L'anticorps, lui, il va aller se fixer là-dessus, puis en se fixant là-dessus, il va réussir à aller neutraliser le virus. Il fait appel des fois à d'autres cellules du système immunitaire, d'autres sortes de lymphocytes qui, eux, vont arriver et vont reconnaître un virus qui est fixé par un anticorps, puis ils vont aller le détruire en sécrétant toutes sortes de substances qui vont détruire le virus. Donc, ça se fait en équipe, ce travail-là. C'est pas juste une cellule de notre corps qui combat le virus. C'est pas juste les anticorps tout seuls. Ça prend un travail d'équipe où on va chercher l'ensemble des cellules de notre système immunitaire, puis chacune a une fonction différente. Ils s'aident les uns les autres et puis ils vont réussir à soit neutraliser le virus ou bien à détruire les cellules qui sont déjà infectées par le virus.
Je vais encore avec une autre question là, de vulgarisation, si on veut comprendre là, la base. Là, l'anticorps, là, est-ce qu'il recherche le virus ou c'est le contact finit par se faire, il rentre en contact immanquablement ou vraiment il recherche des caractéristiques?
Ouais, il recherche des caractéristiques. Les anticorps, c'est spécifique. On n'a pas des anticorps, un anticorps qui est bon contre tout. Donc, quand le système immunitaire rencontre le virus pour la première fois, il y a un mécanisme qui fait que, oh, ça c'est un antigène, c'est la première fois que je vois. Donc, il va aller dans sa mémoire génétique, puis là, il va se mettre à fabriquer des anticorps qui sont spécifiques à ce virus-là en particulier. C'est assez compliqué de la façon dont la cellule se programme pour pouvoir construire ces anticorps-là. Mais l'anticorps qui est produit contre ce virus-là, il sera pas bon contre un autre virus de façon générale. Il sera pas bon contre n'importe quoi d'autre. Il va être juste bon contre celui-là. Ça fait que lui, cet anticorps-là, il va le reconnaître, le virus, quand il va le voir passer.
L'anticorps qui attaque le virus, est-ce que c'est observable? Ça, par exemple, vous, dans vos travaux, là, avec vos outils, vos microscopes, est-ce qu'on est capable d'observer cet échange-là, cette dynamique-là, ou c'est le résultat qu'on constate?
Ben, c'est en microscopie électronique, on peut tout voir. Finalement, pas tout voir, mais on peut voir. Mais ce qu'on va voir surtout, c'est les résultats, effectivement. C'est si les cellules sont infectées, sont détruites. C'est plutôt de cette façon-là qu'on comprend la situation.
Donc, je reviens à l'étude. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que il y a d'autres échantillons qui ont été analysés, des gens qui ont eu d'autres coronavirus par le passé, et il semblerait qu'ils auraient développé quand même une certaine immunité, une certaine prédisposition à être protégés contre la COVID-19. Donc, est-ce que ça veut dire que on pourrait être protégé par d'autres virus contractés antérieurement?
Ça c'est un peu une extrapolation qui est trop qui est pas nécessairement fondée. Ce qu'ils ont
observé, c'est hasardeux un peu.
Ouais, il pouvait y avoir de l'immunité croisée entre d'autres coronavirus. Donc, c'est-à-dire que les anticorps qui ont été développés contre d'autres coronavirus pourraient réagir en laboratoire contre des souches de SARS-CoV-2, là, le virus qui cause la COVID-19. Ceci dit, ça ne veut pas dire que on est nécessairement protégé par ces anticorps-là, parce que ça peut être de faible affinité. Et puis, la réalité, c'est que si on avait été protégé par des anticorps du rhume, on n'aurait pas vu ces épidémies-là se développer à cette échelle-là dans la planète, parce que tout le monde a été en contact avec le rhume à un moment donné ou un autre. Alors, je pense qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Il y a une certaine immunité croisée, mais on ne pense pas que c'est vraiment protecteur.
Est-ce qu'à ce stade-ci, puis je me souviens d'avoir posé la question il y a un mois ou deux, mais notre connaissance de ce virus-là se développe de jour en jour, alors je repose la question, est-ce qu'on sait à ce stade-ci si il y a des gens qui, de façon innée, si on veut, là, seraient protégés du virus, là, qu'eux autres, on aurait beau leur frotter le virus dans le visage, ils ne l'attraperaient pas. Est-ce qu'on sait à ce stade-ci s'il y a des gens qui sont comme immunisés naturellement?
Non, on ne sait pas ça. Il n'y a pas d'évidence que ça existe non plus. Pour le savoir, il faudrait vraiment que des gens qui aient été vraiment en contact direct avec le virus, et puis après ça, on analyserait peut-être leur système immunitaire et puis on regarderait s'ils ont quelque chose de particulier. Mais présentement, il n'y a pas d'évidence de ça, là, que des gens qui auraient une immunité innée contre le virus, non.
OK. Hier, Dr. Tremblay, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Ma compréhension, c'est qu'il fut un temps où on se questionnait à savoir, ben, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça aide ou non. Mais là, on en est rendu carrément à craindre que ça puisse même nous rendre quoi plus vulnérables.
Ben, en fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a eu plusieurs études de flux qui ont montré qu'il y avait pas de bénéfices en toute fin pratique à ce médicament-là. Parce qu'au début, il y avait quelques observations de gens, des petits groupes de personnes qui pensaient qu'ils avaient vu un bénéfice. Et c'est toujours le problème. Quand on fait juste observer un petit groupe de patients, ça peut être complètement au hasard ou pas. Quand ils ont fait une plus grande étude, et la dernière qui est sortie, c'était 96 000 personnes qui ont été exposées soit à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine. Et puis, ils ont constaté que non seulement il n'y avait pas de bénéfice, mais il y avait un excès de mortalité chez les gens qui avaient pris le médicament. Puis, on pense que l'excès de mortalité, c'était dû à des arythmies cardiaques que ce médicament-là est connu pour faire. Donc, ce médicament qui est utilisé pour traiter le lupus et puis d'autres conditions, la malaria, et on le connaît dans ce contexte-là, puis ça peut être extrêmement utile pour ces gens-là. Et quand les gens sont traités, on fait bien attention à monitorer leur rythme cardiaque, etc. Mais c'est parce qu'on sait que c'est des médicaments qui peuvent faire des arythmies cardiaques. Donc, non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais chez des gens à risque, il peut causer des effets secondaires qui peuvent être mortels. Alors, c'est dans ce sens-là que l'OMS a décidé là, d'arrêter ses études.
Et qu'en est-il de la colchicine? Parce qu'on sait qu'à l'Institut de cardiologie de Montréal, là, il y a une étude clinique qui va se dérouler. Est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des études qui ont évalué l'impact, l'efficacité de ce médicament-là à date?
Ben, l'étude est en cours présentement, puis l'étude de Dr. Tardif est maintenant devenue une étude internationale. Ça va être la plus grosse étude de fait sur le sujet. Et puis, on doit attendre de voir les résultats de l'étude pour voir s'il va y avoir un bénéfice ou pas. Alors, c'est le genre d'étude qui est important de continuer. Et parce que c'est des études bien faites, randomisées, à double insu, et puis donc ça va nous permettre d'avoir des résultats valables là, une fois qu'on va avoir les résultats de l'étude.
En terminant, Dr. Tremblay, dans la course entre la recherche à un vaccin ou à un médicament, lequel vous pensez risque de l'emporter? Parce que là, on voit, bon, du côté des États-Unis, ils espèrent même avoir un vaccin d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'on a plus de chances, selon vous, de trouver un médicament qui va neutraliser les effets dévastateurs de la COVID?
Bien, présentement, il y a juste un médicament qui, dans des essais cliniques randomisés, qui a montré un certain effet, qui est le remdesivir, chez les personnes qui étaient très malades. C'est certainement pas là, la guérison, là, puis le médicament de rêve. On a 10 candidats vaccinaux qui sont présentement en étude chez les êtres humains. Alors, la course est bien lancée. Moi, j'ai confiance qu'on va arriver à avoir un vaccin là, d'ici un an. Mais lequel de ces... Puis c'est important qu'il y ait différents vaccins qui soient étudiés parce que c'est loin d'être garanti que c'est le premier qu'on va étudier qui va nous donner des résultats positifs. Alors, c'est important d'utiliser des vaccins avec des différentes stratégies. Là. Ils sont pas tous faits de la même façon pour pouvoir mieux déterminer lequel va être le plus efficace.
Docteur Cécile Tremblay, vous êtes microbiologiste et infectiologue au CHUM. Merci, nous avons parlé encore une fois, c'était très intéressant.
Merci.
Merci, au revoir.